Salut à tous les ornithos et bienvenue de nouveau dans votre émission Carrément Rétro, la seule émission de la bande FM qui aborde la culture rétro geek et présentée par votre serviteur Johan Sega. Jingle. Nous nous étions arrêtés lors de notre dernière émission à la comparaison entre Mario et Sonic par Yuji Naka, un des concepteurs de Sonic et surtout de la notion de vitesse. Et Yuji Naka a donc le champ libre par Sega pour proposer un jeu donc plus rapide. L'équipe de programmeurs réalise des essais à partir de la bibliothèque d'utilitaires originale de la Mega Drive, ces programmes spécialement étudiés pour faciliter le développement de soft sur la console. Il suffit de prendre en charge de A à Z la grande majorité des productions, mais certaines exceptions se montrent plus gourmandes et Sonic en est une. Il ne faut que quelques minutes à l'équipe pour cerner les limites de ces programmes de base. Clignotement, ralentissement, saccade du jeu. Dès que les développeurs accélèrent la vitesse de déplacement du héros, l'animation souffre. La Sonic Team doit absolument plonger les mains dans le cambouis pour optimiser l'affichage du jeu. Et c'est Yuji Naka lui-même qui s'y colle. Au bout de quelques semaines, le talentueux programmeur conçoit l'algorithme miraculeux qui permet enfin à l'animation de garder toute sa fluidité. Ce sera une des grandes forces du projet de Sega. À l'époque, aucun titre ne rivalise en vélocité avec Sonic the Hedgehog. Grâce à la programmation de Naka, le héros peut traverser chaque niveau en 30 secondes sans que l'animation ne soit perturbée. Reste à optimiser la vitesse du jeu pour qu'elle soit acceptée par le reste du staff, y compris les âmes sensibles. Malgré l'exceptionnelle fluidité du défilement, un détail pose en effet problème. L'équipe nippone s'aperçoit que la perception de la vitesse diffère d'une personne à l'autre. Certains la trouvent trop appuyée, tandis que d'autres l'estiment encore perfectible. La question a donné lieu à de nombreuses discordes au sein du groupe. Naka reconnaît qu'à l'origine, la vélocité du héros était si prononcée qu'elle pouvait donner mal à la tête. Il déclarera d'ailleurs « Sonic the Hedgehog au tout début de la conception avait un scrolling si rapide qu'au bout de quelques minutes, on en devenait presque malade. Du coup, nous avons diminué juste un peu la rapidité du jeu tout en gardant une certaine célérité dans le déplacement du hérisson. Le juste équilibre enfin trouvé, la Sonic Team s'attaque enfin au contenu du soft, les niveaux. L'histoire était écrite. Sonic devait être un jeu rapide et coloré, mais il fallait encore définir l'univers du hérisson. » Le responsable des niveaux, Hirokazu Yasuhara, décide de s'inspirer des flippers. Le troisième membre à avoir rejoint l'équipe de base s'occupe donc du level design, c'est-à-dire qu'il conçoit les stages du jeu et leur architecture. Pour mener à bien cette tâche, le créateur japonais utilise tous les moyens à disposition, à commencer par le prototype développé par Naka. Tout comme il existe l'esquisse ou le rush dans la conception de films d'animation, un prototype a été mis en place par Naka. À travers cette démonstration technique, le programmeur révèle le gameplay du titre tel qu'il l'imagine depuis le début. Les bases y sont posées, entièrement jouables avec un seul et unique bouton. Sonic peut courir, sauter et surtout se rouler en boule en fonçant sur ses ennemis. Hirokazu comprend alors qu'il doit trouver le juste milieu pour ériger des niveaux qui soient à la fois complexes visuellement tout en étant simples à parcourir. Rapidement, il imagine des circuits faits de bumpers à la manière des flippers. Il faut dire que l'idée du hérisson en boule l'aide à suivre cette voie. Lors des essais préparatoires, il positionne également des loopings qui deviendront l'une des marques de fabrique de la série. Mais plus que tout, le level designer souhaite fédérer des joueurs de tout horizon. Un vrai casse-tête dans la mesure où Sonic est prévu sur l'ensemble des continents afin de faire taire l'hégémonie de Nintendo et de son Mario. Les publics japonais et américains sont totalement différents, analyse Yasuhara. Les occidentaux préfèrent les jeux proposant un gameplay profond et un fun instantané. Tandis que nous autres japonais, nous les aimons simplifiés. C'est à partir de cette analyse que j'ai commencé à travailler sur Sonic en développant un jeu qui soit à la fois intéressant pour les deux régions. Pas seulement les hardcore gamers, mais aussi les joueurs plus occasionnels. Seulement voilà, si cette optique est simple à envisager, elle l'est beaucoup moins dans la pratique et de nombreux niveaux font l'objet d'une attention toute particulière, à commencer par le premier, la célèbre Green Hill Zone. Ce niveau a été revu un nombre incalculable de fois. Il a été modifié et refait sans arrêt pour être finalisé après presque 8 mois. Cela peut paraître étonnant, d'autant plus que les autres stages n'ont pas posé autant de problèmes. Mais l'équipe voulait s'assurer de l'image que ce premier level donnera du hérisson. Par exemple, le damier au sol s'inspire du rendu obtenu sur les ordinateurs capables de générer de la 3D. En outre, les palmiers et autres éléments du décor, bien qu'en 2D, sont dessinés comme s'il s'agissait de polygones. Yuji Naka s'inspire des conseils reçus par Yu Suzuki, qui aura, à l'occasion de Space Harrier, utilisé un effet damier au sol pour donner un aspect 3D à des jeux donnés. Il donne ainsi un cachet plus technologique à Sonic, une manière de montrer sa supériorité technique sur la série des Mario et autres jeux de plateforme du moment. A cet effet, l'équipe épluche chaque Famitsu, un magazine de jeux vidéo très populaire au Japon, afin de suivre les faits et gestes de la concurrence. Rien n'a été laissé au hasard. Les personnages de jeux sur Super Famitsu Famicom étaient nos rivaux, mais également nos cibles. Pendant le développement de Sonic, nous étions extrêmement attentifs à tout ce qui se faisait simultanément sur cette console. Chaque information, chaque commentaire de Famitsu était soigneusement étudié pour ne commettre aucune erreur, rapporte Yashuhura. Autre élément remarquable, les Special Storage. Bien avant Sonic, Yuji Naka a déjà mis au point un programme de rotation d'écran. Je voulais absolument l'utiliser pour Sonic, donc je l'ai intégré et ça tournait magnifiquement bien. À mes yeux, il n'était en rien inférieur à ce que pouvait faire la concurrence. L'effet est saisissant. Sonic se trouve emprisonné dans un labyrinthe en perpétuelle rotation où il faut trouver une émeraude cachée pour s'en échapper. Avec ses stages, Sega n'hésite pas à affronter Nintendo sur son terrain technique et montrer que la Mega Drive, pourtant plus ancienne, est capable des mêmes effets visuels. La suite des aventures du personnage Sonic, c'est dans votre prochaine émission. La pause musicale dans votre émission Carrément Rétro, c'est avec Robert Parker, Sweet Nothing. C'était la pause musicale dans votre émission avec Robert Parker, Sweet Nothing.
Ornithorynx sur internet, c'est sur www.ornithorynx.net.
Moi j'écoute Carrément Rétro Ornithorynx et j'aime ça.
La rubrique Le jeu du jour. Aujourd'hui dans le jeu du jour, Fantasy Zone sur Master System, édité en 1986. Et oui, c'est pas d'hier. Ah, le shoot 'em up. Sans doute l'un des genres vidéoludiques les plus appréciés de tout bon rétro gamer. Du fait du challenge qu'il offre et de ses liens très étroits avec nos bien-aimés bornes d'arcade. Les représentants en sont nombreux et traitent pour la plupart de thèmes futuristes, puisant leur origine dans la science-fiction. On peut ici penser à la série des Gradius, Axelay et autres Némésis. D'autres placent quant à eux le joueur dans un univers plus actuel, dans le cadre des guerres du XXe siècle, comme ont pu le faire les Desert Strike et autres Striker 1945. Et donc Fantasy Zone est donc bien un shoot'em up et l'on s'en rend compte dès le départ. On démarre la console et on joue. Voilà ce qui caractérise la plupart des jeux de ce genre. Si on laisse filer l'écran titre sans rien toucher, on assiste à une phase de jeu où notre vaisseau est contrôlé par la machine et non à une quelconque séquence introductive comme c'était souvent le cas à l'époque. Lorsqu'on lance la partie, on entre directement dans le vif du sujet sans aucune cinématique, entre guillemets. On est sur Master System. Non, on ne connaît pas le pourquoi du comment de ce canardage en bonne et due forme. Il faudra attendre la fin de l'aventure pour comprendre les réelles motivations de notre héros qui s'appelle Opa Opa, qui d'ailleurs, soit dit en passant, fut le premier héros Sega avant Alex Kidd. Je ne vais pas ici amenuiser votre plaisir en spoliant cette fin, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle sera surprenante et déroutante pour quiconque aura suivi les aventures de Oppa Oppa. Le scénario est moins présent et détaillé que pour ses successeurs et prend plutôt une forme bateau pour le genre. Oppa Oppa est donc le dernier espoir de son espèce et doit partir seul en guerre contre les hordes d'envahisseurs, défaire les boss pour enfin flanquer une bonne correction au big boss final. Ça, c'est la boîte et la notice du jeu qui nous l'apprennent. A noter que notre héros est un vaisseau muni d'ailes et de pattes pour le cas où ils doivent se déplacer sur la terre ferme, preuve de l'originalité du soft. Dans ce jeu, point de reconstitution d'une des batailles de la guerre des étoiles ou de Star Trek. On évolue dans un univers coloré de teintes flashy, arborant une palette allant du jaune fluo au rose bonbon, bien loin des Space Seater, la première expression qui m'est venue à l'esprit, offrant le plus souvent un fond noir parsemé d'étoiles avec quelques éléments de décor fixe. Ici, le héros ne pilote pas un vaisseau aux allures ultra sophistiquées, arborant tellement d'armes qu'on se demande s'ils ont eu la place d'y mettre les essuie-glaces et la clim. Non, dans Fantasy Zone, le héros est un vaisseau en forme de capsule de sauvetage et aux couleurs vives qui ne se la pète pas en exhibant fièrement ses dernières modifications de tuning. Pas d'ennemis à l'air menaçant, mais des protagonistes que Oppa Oppa doit annihiler et qui sont tout aussi attachants que lui du fait de leur forme et de leur couleur chatoyante et tape à l'œil. Fantasy Zone nous fait donc évoluer dans un univers tout à fait décalé et loufoque comparé aux autres jeux du même genre auxquels on était habitué à l'époque. En son temps, avec ses graphismes kawaii, ce titre sera l'un des précurseurs de ce qui deviendra plus tard, à l'image de Parodius, le genre des cut-em-up, à savoir les shoot-em-up mignons. Et mignon il l'est du début à la fin, avec ses environnements à thème, nous mettant aux commandes de notre vaisseau sur fond de décors lunaires, aquatiques ou encore forestiers, le tout dans une explosion de couleurs, toutes plus vives les unes que les autres. Qui dit shoot-em-up dit forcément gigantesque boss de fin, et ils sont bel et bien présents dans celui-ci aussi, et sous une forme tout aussi délirante et colorée que le reste. On pourra ainsi en découdre avec une souche d'arbres géantes, un soleil entouré de boules bleues, un poisson métallique, ou encore un autre ressemblant à une crêpe ailée tireuse de missiles. Mention spéciale pour la famille de bonhommes de neige, qui est vraiment très fun et aussi très dur à battre. Voici donc un très bon bilan pour cette réalisation, qui demeure le plus gros point fort de ce jeu, qui aura su faire naître et démocratiser le cut-em-up dans nos contrées à une époque où on ne voyait que les shoots spatiaux et sombres à souhait. Sur le gameplay, là encore, c'est un sans faute pour ce Fantasy Zone, malgré l'absence d'un mode de joueur à proprement parler. On peut en effet s'adonner aux joies de la joute vidéoludique avec un ami, mais pas à deux sur le même écran, ce qui est dommage. Il est donc possible de jouer à un mode de joueur en alternance, le seul but étant le scoring, sympathique, mais bien loin des plaisirs offerts par une partie en coopération. À part cela, de nombreux éléments ont été incorporés à ce jeu, contribuant un peu plus à le rendre novateur pour son genre. Oppa Oppa se déplace donc selon un scrolling horizontal, à l'allure et à la direction non prédéfinie. Comprenez par là que notre héros va à la vitesse qu'il souhaite et qu'il peut se déplacer en avant ou en arrière, le tout sur un environnement fermé. Comme on le disait tout à l'heure, Oppa possède des jambes, il pourra donc se poser et se déplacer au sol. Ce geste s'avérera utile lors des moments où le ciel sera surchargé d'ennemis. Les ennemis, parlons-en de cela, ils sont de formes diverses et variées et opéreront de façon bien différente. Certains vous tireront dessus, d'autres se jetteront sur vous, alors que l'on pourra en voir se déplacer par groupe, suivant une certaine trajectoire, les rendant difficiles à éviter. Mention spéciale pour les patterns aléatoires, démontrant tout le savoir-faire de Sega dans ce domaine. En effet, les ennemis sont générés au hasard et peuvent débarquer de n'importe quel endroit à n'importe quel moment. Ce qui rend l'expérience de jeu bien plus corsée, tout en étant plus jouissif puisqu'on ne passe plus les niveaux à force d'essais et d'apprentissage, comme dans beaucoup d'autres jeux. Non, on passe les niveaux parce qu'on est balèze et c'est tout. Ça fait du bien à l'ego du rétro-gamer compulsif. La bande-son de Fantasy Zone colle parfaitement avec l'aspect visuel et les musiques restent bien en tête. Le soft compte 8 niveaux et autant de musiques différentes, ce qui nous laisse penser que Sega avait vraiment à cœur de nous servir un jeu à l'ambiance tant diversifiée que d'une qualité indéniable. Les bruitages sont eux aussi de très bonne qualité. La durée de vie de ce jeu pour une cartouche Master System reste très bonne et il vous faudra plusieurs heures pour arriver à bout de ce soft. Conclusion, notre Fantasy Zone est le premier épisode du saga à succès comme savait si bien le faire Sega en son temps et aura posé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le cut-em-up. Pour trouver ce jeu à notre époque, comptez une quinzaine d'euros dans un état propre pour le premier volet. Sachez qu'il y a eu deux autres Fantasy Zone sortis sur la petite 8-bit de Sega, le plus dur à trouver en état nickel étant le Fantasy Zone The Mess. Pour toutes vos questions, suggestions et idées, n'hésitez pas à me contacter sur johan@ornithorynque.net. Je répète, johan@ornithorynque.net. « Salut les rétros, j'espère que vous avez passé un excellent rétro moment en ma compagnie. Je vous dis bye bye et à la prochaine.